Bonsoir et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre émission interactive À votre avis, Abdourahmane Dia au micro. À l'initiative du président camerounais Paul Biya, donc le grand dialogue national a été lancé ce lundi au Cameroun. Il vise à mettre un terme au conflit meurtrier qui secoue la partie anglophone depuis plus de 2 ans. Toutefois, les travaux ont démarré sans la participation des principaux dirigeants séparatistes. Certains d'entre eux estiment même que les discussions doivent se tenir hors du pays. Alors, c'est donc l'objet de ce débat avec vous, les auditeurs. Je rappelle le numéro pour appeler en direct, 001-202-205-2633 ou 001-202-205-4393. Voilà, on me dit que Victor Chikakika est donc en ligne depuis le Cameroun. Victor, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous les auditeurs.
Voilà, donc on vous écoute. Comment est-ce que vous appréciez le lancement de ce dialogue, de ce grand dialogue national chez vous au Cameroun?
J'ai apprécié le lancement du dialogue national, surtout lors de la sortie médiatique du président de la République, Paul Biya, le 10 septembre dernier, affirmant l'ouverture d'un dialogue national. Et du coup, aujourd'hui, nous nous retrouvons dans ce dialogue. Et je suis persuadé que les discussions feront jaillir une solution ou encore une issue acceptable pour tous les Camerounais et les Camerounaises. Du coup, s'il faut rappeler, le Cameroun avait subi, une partie bien sûr du Cameroun avait subi des exactions et encore beaucoup des atrocités. Et là, et ça a créé vraiment des déplacés internes et encore des réfugiés autres. Alors, il était donc question, c'était une question vraiment nationale, d'intérêt commun, de faire l'unité nationale. Parce que d'un côté, il y avait une division et du coup, le Cameroun a été uni, unique, et le Cameroun sera toujours uni. C'est pourquoi, à partir de ce dialogue, nous allons mettre une base solide, mettre les jalons d'un Cameroun uni afin de réunir tous les fils et les filles du Cameroun. C'est pourquoi nous apprécions ce dialogue,
voilà,
et
Victor,
nous espérons avoir un résultat bien escompté.
Voilà, qu'est-ce que justement pour négocier, il faut que les deux parties acceptent d'abandonner une partie de leur position, si on peut ainsi dire. Est-ce que vous pensez que ceux qui sont en ce moment en prison devraient être libérés en geste de bonne volonté?
Justement, le dialogue est le vecteur de la cohésion sociale et de l'unité. Du coup, quand il y a deux parties antagonistes et ces deux parties acceptent, je dis comme ça, si ces deux parties acceptent de s'asseoir et dialoguer, et qu'est-ce qui va empêcher ces deux parties de tomber sur une issue qui sera favorable pour tous? Donc, je ne prédis rien, mais je pense que, à mon humble avis, à l'issue de ce dialogue, nous pouvons espérer peut-être la libération des prisonniers politiques. Pourquoi pas? L'objectif du dialogue, d'abord, c'est de trouver une entente, de trouver un point commun. Si nous avons déjà trouvé un point commun, je pense que les autres choses qui viendront seront vraiment simples, comme je suis en train de le penser.
Voilà, donc merci beaucoup Victor depuis le Cameroun, donc qui est très optimiste quant à l'issue de ce dialogue. Nous avons Benoît, c'est ça? Patrick, plutôt. Patrick, bonsoir.
Bonsoir,
Benoît,
bonsoir à tous, c'est Patrick. Voilà. Depuis Lubumbashi.
Lubumbashi, exactement. Alors donc, on vous écoute.
Okay, merci beaucoup de m'accorder la parole ce soir pour placer un petit mot en rapport à la thématique du jour. Ce qui est vrai est que le dialogue reste un des moyens les plus efficaces pour résoudre certains problèmes, certaines questions au sein de la communauté. Et nous devons tout de même encourager cette option qui a été prise par les autorités camerounaises. Mais ce que nous déplorons souvent, c'est quoi dans ce genre de propositions, de dialogue, quand souvent les motifs qui sont donnés pour convoquer ces gens d'assises ne sont pas du tout clairs. Et le problème, la plupart des gens, donc les autorités qui convoquent ce genre de dialogue, ne définissent pas du tout les modalités. Par exemple, si on veut convoquer un dialogue, on ne donne pas de thèmes clairs qu'on peut aborder dans ce dialogue. Je vais prendre l'exemple de notre pays, la RDC. Nous avons connu plusieurs dialogues ici lorsque le mandat de Joseph Kabila avait pris fin en 2014, 2015, 2016, parce que son mandat avait pris fin en 2016. Vous allez vous rendre compte que tous ces dialogues qui ont été organisés ici par l'intermédiaire de Kodjo, par le peintre de l'Église catholique, vous allez vous rendre compte que c'était presque du passe-temps. Les vrais problèmes n'ont pas été résolus et les conséquences sont là jusqu'à ce jour. Moi, je pense que pour que ces dialogues puissent réussir, par exemple au Cameroun, parce que cette crise qui a affecté, qui a endommé plusieurs familles, que ce soit du côté anglophone ou du côté francophone, moi je pense que le peuple camerounais, c'est un seul peuple qui doit travailler sur les vraies valeurs morales, parce que la division ne sert à rien du tout, ça ne profite à personne.
D'accord, merci beaucoup Patrick. Depuis Lubumbashi, nous avons Nectaire à Kinshasa. Nectaire, bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Voilà, donc vous dites que vous êtes très optimiste.
Voilà, de prime abord, je dis que je suis optimiste. Pourquoi ? Parce que je sais que dans la plupart des cas où surviennent des conflits en Afrique, en cas de crise, on recourt toujours au dialogue comme au mode de résolution. Ça, en premier lieu, je suis optimiste. Je remercie le président pour ça. Mais toutefois, je mets des doutes. Je trouve qu'il est déjà mal parti. Mal parti pourquoi ? Quand on convoque un dialogue, premièrement, la première des choses à faire, c'est de chercher d'abord les principaux acteurs du jeu, ceux-là qui sont au centre, on les recherche, on négocie avec eux, on trouve des solutions. Malheureusement, ce n'est pas ça qu'il a fait. Deuxièmement aussi, qui a convoqué le dialogue ? Qui mène ce dialogue ? C'est le Premier ministre qui est du camp du pouvoir. Or, ce n'est pas ça. Dans de telles négociations, il faut faire recours à des personnalités consensuelles, à des personnes qui sont neutres, qui n'ont pas de parti pris. Malheureusement, ce dialogue est mené par le Premier ministre qui appartient au camp du pouvoir. C'est ça. C'est à ce niveau-là que je trouve que ça ne pourra pas vraiment avoir de suite favorable pour le peuple camerounais.
Donc pour vous, l'absence des principaux leaders séparatistes qui sont en ce moment en prison est un problème?
Oui, un très grand problème parce que d'autant plus qu'ils n'ont pas donné leur point de vue, d'autant plus qu'ils n'ont pas donné leur desiderata, alors on ne sait pas ce qu'ils doivent faire pour qu'ils puissent cesser la guerre. Ça va toujours continuer, ils vont toujours faire pour influencer, pour attiser le feu. Ils ne seront pas à l'aise.
Mais peut-être que ce dialogue peut aboutir à leur libération, comme le disait Victor, notre auditeur du Cameroun. Du Cameroun plutôt.
Bien sûr, leur libération, bien sûr, c'est quand même une bonne chose. Mais la meilleure des choses, c'est de les associer à la prise des décisions. Ils devraient être là, négocier ensemble, trouver des solutions pour sortir de cette guerre, de ces conflits qui a tué beaucoup de Camerounais. Malheureusement, ce n'est pas ça que le président a fait. Ils sont là, ils sont en dehors, ils ont rejeté. Et ce n'est pas une bonne chose. Il n'y aura pas vraiment de consensus, à mon humble avis.
D'accord. Merci beaucoup, Nectaire. Depuis Kinshasa, nous avons Asmaïlou depuis Lomé, n'est-ce pas?
Oui. Et depuis Lomé, bonsoir.
Bonsoir. Alors, vous dites que ce sont les acteurs qui décident qu'ils soient invités ou pas.
Oui. Généralement, ce dialogue, c'est profitable à tout le monde, tout acteur, de participer et donner son point de vue juste pour qu'ensemble, ils trouvent des consensus qui vont permettre le Cameroun de sortir dans cette crise sur tous ces plans. Et aujourd'hui, si d'autres boycottent ce dialogue, c'est parce que d'autres sont aussi manipulés par les hommes d'extérieur. Sinon, je ne vois pas le rapport de boycotter ce dialogue au moment où tout le monde cherche à sortir de crise.
Donc, vous ne trouvez pas leur revendication de tenir les discussions hors du Cameroun justifiée, hein?
Oui, donc, le dialogue doit se faire au pays et que tout fils et filles doit participer et
voilà, je crois qu'on a quelques soucis avec la ligne du Togo. Asmaïlou, merci beaucoup. Voilà, donc je vais quand même lire ce commentaire d'Archiduc Théodore de N'Djamena qui nous dit que le dialogue national aura des chances d'aboutir à la paix si et seulement si il inclut tout le monde, comme aussi bien séparatistes qu'opposants, avec un réel objectif d'apporter la paix. Godefroy Toumba nous dit que ce dialogue aboutirait à la paix si les Camerounais eux-mêmes se prennent en charge, comme le cas, comme ce qui a été vécu en RDC aujourd'hui, selon lui. Et puis Alexis Kamgang lui estime qu'il ne fait l'ombre d'aucun doute à force de vouloir porter à Maurice Kamto ses 37 années de malgouvernance. Monsieur Biya vient de rater sa sortie par la grande porte. Il sera seul comptable des conséquences donc de ses actes politiques. Jean-Louis Nassar nous dit à jamais cette diversion de Paul Biya ne pourra aboutir. Il s'agit simplement d'une pirouette du RDPC lui permettant de s'éterniser au pouvoir. C'est plutôt un monologue qui accouchera d'une souris. Ce monsieur a conclu la société civile crédible, les leaders politiques représentatifs, les vrais acteurs de la scène politique anglophone, les porteurs d'opinion. Bref, il n'a invité en majorité que les membres de son parti. C'est ce que dit donc Jean-Louis Nassar. Décidément, dit-il, le Cameroun a raté le train de l'avenir. Et puis, Urbain à Goma, en RDC, nous dit que non, il ne pense pas que ce dialogue va aboutir à quelque chose de positif, puisque la façon d'appeler tout le monde ne signifie pas qu'il aura la paix. Peut-être le gouvernement devrait chercher d'autres mesures pour éradiquer cela. Tout le monde a les yeux et l'intelligence pour découvrir les causes de guerre dans les pays en voie de développement, surtout ceux de l'Afrique. Faut pas nous distraire avec des dialogues, car en RDC aussi, on les avait fait de plus, mais rien n'a changé. C'était donc Urbain depuis la RDC. On me dit que Conan Félix est en ligne depuis Abidjan. Conan Félix, bonsoir.
Bonsoir.
Oui, on vous écoute. Le dialogue politique, disons le grand dialogue national au Cameroun, vous en pensez quoi?
Bon, en fait, pour moi, ce dialogue ne peut aboutir. Pour la simple raison que les protagonistes, même au conflit, ne sont pas revenus autour de la table de discussion. C'est vrai qu'il y a la partie de l'État qui est réunie, qui est présente, mais dès l'instant que l'autre partie qui est belligérante est absente, donc il n'était pas avec qui, le gouvernement camerounais est en train de discuter. Parce que les principaux acteurs de la partie anglophone sont absents. Donc il n'y a pas lieu de discussion qui puisse aboutir. Si les principaux acteurs étaient là, cette discussion allait avoir un paysan, et qu'elle allait faire évoluer les choses de manière favorable. Mais ils ne sont pas là. Donc, le gouvernement essaie de faire des compromis pour qu'il puisse céder quelques portions à la partie anglophone.
Mais est-ce qu'ils ont. Ceux qui sont absents, Conan, est-ce qu'ils ont raison de boycotter? C'est un appel au dialogue, on ne sait pas ce qui va en sortir. Est-ce qu'ils ont vraiment raison de ne pas répondre à l'appel au dialogue? Il faut quand même discuter pour trouver une solution. Ah bon, c'est vrai que la ligne n'est pas très bonne avec Abidjan non plus, malheureusement. On va essayer Marie-Jeanne Abega depuis le Cameroun.
Marie-Jeanne, vous êtes en ligne?
Bonsoir.
Ah oui,
je vous entends. Oui, bonsoir.
Merci, bonsoir. Mmh. Alors, je vous écoute. Vous estimez que ceux qui appellent à ce que les discussions se tiennent hors du pays n'ont pas tort?
Oui, je pense que ces personnes n'ont pas tort parce que les exemples de la RDC, par exemple, le Soudan du Sud et même l'Afrique du Sud devraient nous inspirer. Parce que il y a un problème de manque de confiance et un problème de méfiance de part et d'autre. Le dialogue a été convoqué par le président de la République et qui n'est pas en odeur de s'impliquer avec la partie adverse. Donc, conduire la partie adverse à un dialogue au Cameroun interpelle ces gens à la vigilance parce que ces personnes qui sont hors du pays et qui sont aujourd'hui des dissidents ne sont pas sûres qu'en venant au Cameroun, leur sécurité est garantie. Oui, c'est la raison pour laquelle ces personnes sont méfiantes. Mais moi, je n'aurais pas voulu qu'elles soient totalement absentes. J'aurais voulu peut-être qu'elles soient exigeantes et qu'elles interpellent peut-être les organisations internationales pour que la garantie de leur sécurité leur soit déjà signifiée avant le début du dialogue. Donc, je ne peux pas les condamner. Mais je dis aussi qu'il y va de la méfiance et de la sécurité personnelle.
Mais vous êtes optimiste qu'il y aura peut-être des grandes annonces d'ici la fin des travaux, d'ici vendredi, même s'ils ne sont pas là?
Oui. Oui, la fin des travaux, c'est d'ici mercredi. Mais je pense que le fait que tous les protagonistes ne soient pas sur la table de discussion pourrait créer une certaine confusion parce que ça peut aussi radicaliser les dissidents. D'autant plus que lorsqu'on voit la configuration de ceux qui sont appelés sur la table du dialogue, il y a beaucoup plus les personnes issues du parti, le parti au pouvoir. Mmh. Oui, c'est ces personnes-là qui sont majoritairement invitées sur la table du dialogue. Donc, on pourrait se dire qu'elles ne seront pas, disposées à lâcher ce qu'elles ont déjà entre leurs mains, c'est-à-dire le pouvoir, ou alors à accepter de le partager. Mais le souhait de la majorité est qu'il y ait des accords qui arrangent tout le monde. Parce que ceux qui se plaignent, les partis d'expression anglaise qui se plaignent, ce n'est pas seulement elles qui ont des problèmes. Beaucoup d'autres Camerounais, beaucoup d'autres régions ont des problèmes, mais leur façon d'exprimer n'est pas identique à celle que les personnes de ces deux régions-là d'autres personnes ont choisi la voie pacifique, c'est-à-dire dire que l'OTAN pourra résoudre les problèmes, mais eux, ils sont passés aux actes de violence et de barbarie. C'est un peu ça, la configuration. Donc, moi, je pense que ça pourrait les radicaliser, comme la médiation pourrait aussi être utile et apaiser la colère.
Justement, en parlant de médiation, vous pensez à qui est-ce qu'il faut un pays médiateur, une personnalité? Vous pensez à quelqu'un, par exemple?
Moi, l'avis était demandé à nous autres de donner notre avis par rapport à qui sera le médiateur. Moi, j'aurais proposé, par exemple, Madame Hélène Johnson, qui est une ancienne présidente, et à Mme Catherine Sandapanza, pourquoi ne pas faire appel à l'évêque Desmond Tutu d'Afrique du Sud? Il y a des grandes figures emblématiques en Afrique. Les anciens présidents pouvaient assurer la médiation. Mais le problème, c'est que le médiateur qui a été improvisé, j'appelle ça de l'improvisation parce que le pays ne dispose pas d'un médiateur de la République. Il est un médiateur improvisé pour la circonstance et la situation dans laquelle nous trouvons, que il est originaire de ces régions querellées, et comment est-ce qu'il va être en même temps juge et parti?
Justement, peut-être le gouvernement camerounais évoque une question de souveraineté. Beaucoup de pays n'aiment pas quand ce sont d'autres pays qui viennent faire les médiations.
Ça, c'est l'approche gouvernementale, mais si ça avait été un dialogue qu'on avait impliqué, par exemple, la société civile pour faire un sondage ou alors passer par un référendum pour choisir le médiateur, je pense que nombreuses personnes auraient eu mon avis qu'il fallait un médiateur indépendant. Et à certains moments, nous qui sommes à l'espace médiatique, nous avons même proposé que ce soit qu'on confie aux religieux beaucoup d'autres religieux, par exemple les catholiques, les protestants, les pentecôtistes, les musulmans. On aura appelé les religieux de beaucoup d'obédience pour leur confier la médiation, mais ça n'a pas été le cas. La médiation est menée par le gouvernement lui-même qui est l'accusé.
D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Jeanne Abega, depuis Yaoundé. Nous avons Karim Santi au Burkina Faso. Karim, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Oui, on vous écoute.
Oui, c'est comme j'ai dit dans mon commentaire. Là. En tout cas, pour ici, ce dialogue-là, vous appelez tous les colonnes vertébrales. Avant de faire le vrai dialogue. Sinon, en tout cas, nous, on a vu ça même au Burkina Faso ici, mais ça n'a pas été normalement comme on le souhaite. Quoi.
D'accord. Donc, vous pensez que.
Les leaders religieux et autres traditionnels devraient être parmi les unités là pour pouvoir réussir le dialogue.
Comme chez vous, le Mogonaba avait bien contribué à l'apaisement de la situation durant la crise en 2015, non?
Oui, exactement.
Voilà, donc merci beaucoup, Karim. Voilà. Je lis ce commentaire de Abdoulaye Malixi à Dakar qui nous dit que oui, qu'une solution peut être trouvée dans la mesure où le dialogue national est la seule équation qui peut résoudre des crises politiques, conflits armés et civils dans un pays où l'opposition est certainement majoritaire. L'Afrique a besoin d'avancer maintenant et aller les États-Unis d'Afrique. C'était un message de Abdoulaye ici à Dakar. On me dit que voilà, c'est Baldé, n'est-ce pas? Baldé, bonsoir.
Oui, allô, oui, bonsoir à tous les étudiants.
Voilà, donc on vous écoute. Quel est votre point de vue sur ce débat?
Bon, moi, par rapport à ce dialogue, moi, je dirais que c'est très difficile vraiment d'aboutir à ce dialogue, trouver un consensus, parce que une partie concernée dans ce dialogue n'est pas incluée en quelque sorte en prison. Que je prends l'image de Maurice Kanto qui est en prison aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, Cameroun, c'est comme, je prends la référence du dialogue qui se passe au Sénégal actuellement. Vous voyez, hier seulement des opposants politiques ont été libérés. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'il pourra faciliter vraiment le dialogue politique. Il faut que tout le monde soit impliqué dedans. Parce que la quintessence du dialogue, c'est trouver d'abord la réconciliation nationale et participer au développement du pays. Je pense que si vraiment on parvient à libérer tous les prisonniers politiques, que ce soit les séparatistes ou les Maurice Kamto, on va avoir un dialogue sincère et fiable en quelque sorte.
Voilà, donc vous pensez que le gouvernement devrait faire un geste d'apaisement en libérant par exemple ces prisonniers? Ça aurait aidé.
Oui, exactement. Exactement, c'est ce que devait faire le gouvernement. Il fallait d'abord apaiser les tensions parce qu'il ne faut pas concevoir qu'une partie est en prison et on appelle au dialogue. Je pense que ça, c'est d'abord, je pense que c'est impossible parce que voilà, Maurice Kamto a des partisans, voilà, et ils sont là pour supporter leurs partisans. Je pense que la seule manière de vraiment convaincre tout le monde d'abord, c'est sortir les gens à la prison et dire que voilà, venez, on va parler pour l'intérêt du pays, pour l'intérêt supérieur de la nation en quelque sorte, parce que le Cameroun en a besoin.
Voilà. Merci beaucoup Haruna Baldé depuis Dakar au Sénégal. Et on arrive donc au terme de cette émission à votre avis présentée par Abdourahman Dia. La mise en onde, il y avait Lionel Gaïma et Ali. Donc dans un peu moins d'une minute, une autre édition du Monde Aujourd'hui avec Eric Manirakiza qui donc va nous faire le point des dernières informations sur le continent et ailleurs. Excellente écoute en compagnie du programme de VOA Afrique. Au revoir.